Grenoble, Alpes, Métropole présente Presse Citron, des conférences acidulées pour parler de demain. Vous écoutez Adrien Klent, écrivain, auteur de Paresse pour tous et La vie est à nous, dans lequel un économiste remporte les élections présidentielles sur la base d'un programme proposant une durée de travail hebdomadaire de 3 heures.
Bonsoir tout le monde. Merci pour cette invitation. Cette conférence a été intitulée entre parenthèses, penser le travail. Je dois rappeler, comme je le fais souvent, que je ne suis ni un sociologue, ni un économiste, mais bel et bien un romancier. Donc, les romanciers ont, sur les deux professions suspensionnées, ont l'avantage d'être beaucoup plus libres, à la fois de leurs propos, puisque je ne prétends pas être un scientifique, je ne prétends pas à tout savoir et à être capable de tout dire sur la question du travail, mais libre aussi parce que j'ai fait le choix d'écrire donc deux romans, comme ça a été bien dit en introduction, hein. C'est un diptyque, Paresse pour tous, là, le premier qui est déjà sorti en poche, La vie est à nous, le nouveau qui est sorti cette année, qui va sortir en poche l'an prochain, donc il sera au même petit format. Ces deux romans, en effet, ont la particularité de traiter d'enjeux très théoriques, à la fois donc évidemment sur la question du travail, du temps libre, et plus généralement sur la question politique. Donc je ne vais pas faire une conférence sur le thème « Repenser le travail », je vais plutôt faire une conférence sur le thème « Repenser le roman, le travail et la politique ». Comment, pourquoi j'ai fait ce choix d'écrire ces deux livres, et comment et pourquoi ces deux livres racontent des choses à la fois sur ce sujet, bien sûr, mais aussi sur la façon dont l'époque s'en est saisie et comment cette thématique, en fait, nous concerne et nous importe aujourd'hui. Je vais parler à des gens, j'imagine que parmi certains d'entre vous, il y a des gens qui ont lu le livre, au moins Paresse pour tous, peut-être les deux. D'autres ne l'ont pas lu, donc je vais essayer de m'adresser à ces publics différents en parlant à la fois de ce qu'il y a dans le livre et en même temps, de justement, pour ceux qui l'ont déjà lu, comment aussi j'ai fabriqué ce livre. En tant que lecteur, je dirais, je trouve intéressant d'écouter les écrivains qui font ce qu'on appelle la fabrique de l'écriture, la fabrique du livre. Je trouve ça toujours très intéressant de savoir comment les gens travaillent ou ont travaillé pour préparer, pour écrire des livres. Alors, à l'origine de Paresse pour tous, donc Paresse pour tous, c'est un livre qui est sorti au printemps 2021. À l'origine, il y a une idée qu'on a eue, alors je dis « on » puisque je n'étais pas seul, c'était avec Alessandra Caretti qui est là au premier rang, une idée qu'on a eue à l'été 2019. Et à l'époque, c'était une idée pour un scénario de bande dessinée. C'était pas du tout un roman, c'était un scénario de bande dessinée. L'idée de départ était très simple, c'était de se dire, ben voilà, en fait, ça serait intéressant, ça serait une bonne idée, ça serait chouette de raconter l'histoire d'un candidat, d'un responsable qui va porter, enfin, qui n'est pas forcément justement un responsable politique, mais quelqu'un qui va porter à l'élection présidentielle une thématique qui est très facile à résumer, qui est la thématique de 3 heures de travail par jour. Pourquoi ? Parce que 3 heures de travail par jour, c'est la durée qui est proposée par Paul Lafargue dans son essai très célèbre qui s'appelle « Le droit à la paresse », qui est sorti en 1883. Donc, le point de départ, c'est d'imaginer ce que serait que le droit à la paresse de nos jours, d'où l'expression « le droit à la paresse au XXIe siècle », j'y reviendrai. Et puis, l'autre idée, c'est de dire, voilà, ce personnage va jouer le jeu d'une campagne électorale classique, dans le cadre des institutions de la Ve République. Et cette campagne électorale, simplement, ce qu'il y aura, c'est que tout sera totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, mais en jouant sur les codes d'une campagne classique. Puisqu'on avait cette idée d'en faire une bande dessinée, on avait aussi comme référence un livre de bande dessinée, ou comme en mémoire, disons, un livre de bande dessinée qui s'appelle L'An 01, que je vous conseille. Donc on a la chance ce soir d'avoir la librairie Artaud avec nous qui a amené des livres, et donc je leur ai demandé d'avoir des exemplaires de L'An 01, parce que comme je leur racontais tout à l'heure, il m'arrive de faire des rencontres en librairie et je dis « Ah là là, L'An 01, c'est une bande dessinée exceptionnelle, il faut absolument la découvrir, il faut la connaître. » Et en général, les libraires, ils ont un exemplaire. Parfois, ils n'en ont aucun, mais parfois, ils en ont un. Donc après, il y a des espèces de conclaves qui se forment entre les lecteurs pour savoir quelle est l'heureuse personne qui aura le droit d'acheter L'An 01 et de repartir avec, quoi. Après, ils peuvent se le prêter et tout. Mais donc là, il y en a plusieurs exemplaires, donc vous avez vraiment beaucoup de chance. L'An 01, c'est une bande dessinée utopique qui a, comme le dit très bien la personne qui l'a réédité en 2001, donc évidemment pour faire un jeu sur L'An 01, qui porte un message politique. Et, enfin, c'est Jean-Christophe Menu, donc le préfacier, qui dit, en fait, il y a dans cette révolution de L'An 01 tout ce qui manque en général aux révolutions, c'est à savoir de l'humour et de la poésie. Je trouve que c'est une formule qui est très juste. Je pense que on le sait tous, hein, l'histoire, y compris des rêves, on va dire, d'autres sociétés, très souvent, en tout cas au cours du XXe siècle, mais même auparavant, ont très souvent manqué à la fois d'humour et de poésie. Et donc GB, qui est donc ce dessinateur de bande dessinée, hein, au tout début des années 70, fait le choix d'inventer une société avec ce slogan de départ qui est très connu, qui est « on arrête tout, on réfléchit ». Et c'est pas triste. Et en effet, c'est pas triste. On voit au fur et à mesure du livre, ce sont des planches, c'est pas une bande dessinée linéaire, hein, ce sont comme des micro-récits. On voit une société qui, en effet, se met à l'arrêt, qui arrête totalement de fonctionner et qui s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on consomme, pourquoi est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on ne regarde pas, etc. La bande dessinée devient à la fois un support théorique sur ces questions, mais en même temps, c'est devient presque actrice d'un autre projet qui est un film, en fait, qui se tourne au début des années 70 aussi, réalisé par Jacques Doyon, avec en plus Alain René et Jean Rouge qui tournent tous les deux une séquence, l'un à New York et l'autre, je crois, au Sénégal. Et donc, ce film, en fait, est soutenu et appuyé par GB dans ses planches qu'il passe dans différents journaux, notamment dans Charlie Hebdo, où justement, il pousse aussi, il demande, par exemple, il a besoin de figurants, donc il demande à ses lecteurs d'aller faire figurants à tel endroit où il tourne une scène. Il y a des scènes qui sont dans le film qui ne sont pas dans la bande dessinée et vice-versa. Ce qui fonde l'histoire de Lanzerone, je vous le disais, c'est justement que c'est la société en entier, d'un coup de cuillère à peau, on va dire, qui s'arrête. Les discussions qu'on avait avec Alessandra au tout début, c'était dire cette utopie-là, justement, cette façon de penser l'utopie, celle des années 70, où la société en entier est prête à changer radicalement, elle est plus difficile à imaginer dans nos années 2020, mais c'était déjà le cas dans les années 2010, même dans les années 2000, les années 90, les années 80. Ça fait donc un moment que c'est plus difficile à imaginer. On est beaucoup moins enclin à concevoir le fait que voilà, la société massivement va décider qu'il faut tout arrêter. Donc, on cherchait justement une façon différente de construire une proposition utopique. Et je vais vous citer cette phrase de GB justement pour vous montrer le point commun qu'il y a entre l'an 01 et l'histoire de Paresse pour tous. GB écrit donc en postface au moment de la réédition de l'an 01 en 2001. Alors que l'action révolutionnaire s'efforce de prendre le contrôle du présent pour bâtir l'avenir en force, l'utopie, rébellion non violente, lance un pont invisible dont l'arche, ancrée dans ce présent affligeant, enjambe le décevant avenir prévisible et touche une rive inconnue, vierge, où la vie pourrait prendre un cours différent. Je trouve que c'est une très belle façon de parler de l'utopie et justement d'opposer l'utopie à un projet révolutionnaire, on va dire mieux cadré, peut-être un peu verrouillé en amont. L'utopie, c'est aussi une façon de réfléchir sur un ailleurs. Vous savez que le mot utopie, hein, vient d'un livre de Thomas More, dont la première, on va dire, édition est de 1516, au début du XVIe siècle. C'est le moment des grandes découvertes. Hein. Il faut penser que trois ans après, enfin, plus exactement en 1492, Christophe Colomb avait mis le pied sur une île des Grandes Antilles. Et c'est seulement en 1519 que Cortés va mettre, lui, le pied sur au Mexique. Et donc, Thomas More invente ce lieu qui s'appelle donc Utopie, qui est une île, hein, l'île d'Utopie, et va faire le récit donc, de ce que c'est qu'Utopie. Donc, Utopie, en fait, ça vient du grec. Thomas More avait imaginé à un moment intitulé son livre Nous Quama, du mot latin Nous Quam, qui veut dire nulle part. Et puis finalement, il a fait, j'imagine, pour des histoires plutôt d'oreilles, il a choisi de partir du grec et non pas du latin. Et donc, le topos, hein, le lieu en grec, topos, est en fait le préfixe ou en grec et le préfixe négatif. Donc, ou topos, le non-lieu. Ou topos devient évidemment utopie. Cette utopie dont parle GB, cette utopie des années 70, donc, comme je vous disais, nous, on se disait, il faut en faire une utopie d'aujourd'hui, une utopie qui fonctionne dans ce monde peut-être un peu plus froid et rationnel qu'est le nôtre. D'où cette idée, cette expression qu'on a bâtie ensemble, hein, d'utopie réaliste, c'est-à-dire on garde l'idée de l'utopie, mais on affronte quelque chose du réel, de ce qu'est notre société aujourd'hui. Alors, il se trouve que j'ai découvert bien plus tard, hein, alors que le livre était sorti, que Utopie réaliste est le titre d'un livre d'un auteur néerlandais qui s'appelle Rutger Bregman. C'est un livre qu'il a écrit en 2014, mais en fait avec un titre en néerlandais qui n'est pas du tout Utopie réaliste. Et en fait, c'est lorsque le livre est sorti en France en 2017 aux éditions du Seuil que les éditeurs français ont décidé de l'appeler Utopie réaliste. Et parmi donc les propositions de Rutger Bregman, il y a la semaine de 15 heures, c'est-à-dire 3 heures par jour de travail. Donc ça montre que c'était déjà également dans ce livre, même si à l'époque, moi, je ne le savais pas parce que je ne l'avais pas lu. Mais on reparlera évidemment de la question des 3 heures. Donc, comme je vous disais, on travaille un petit peu avec Alessandra autour de l'été, l'automne 2019, sur l'idée d'un scénario de bande dessinée. Et puis très vite, on se rend compte qu'on n'y arrive pas, qu'on n'a pas assez d'espace dans cette forme très particulière hein, qui est un scénario de bande dessinée pour raconter tout ce qu'on veut raconter, et notamment parce que il y a cette idée justement de repartir du droit à la paresse de Lafargue et de le remettre au goût du jour. Donc il y a toute une part théorique. Et puis il y a aussi beaucoup de personnages. Quand on fait un récit de campagne électorale, on a beaucoup de personnages. Et puis enfin, troisième problème, il y a le fait que les récits politiques, on va dire, c'est beaucoup de discussions, de gens qui se mettent autour d'une table et qui discutent, comme c'est le quotidien des gens qui travaillent dans cette métropole. Et c'est pas forcément passionnant pour un dessinateur de dessiner des gens autour de table qui discutent. En roman, c'est beaucoup plus facile parce que justement, on n'a pas ce dessin permanent de la salle de réunion ou du café où les gens se réunissent, quoi. Donc, au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'on n'y arriverait pas en bande dessinée. Et donc, on a pris cette décision. Alessandra a dit, bon, écoute, moi, j'arrête de travailler sur ce projet. Tu n'as qu'à, toi, t'en saisir tout seul et en faire un roman. Alors, si je vous ai parlé de cette question des dates, c'est parce qu'en fait, tout ça a eu lieu donc avant l'arrivée du Covid sur notre planète, hein, on peut parler de planète, qui donc arrive au début de l'année 2020. Alors qu'en réalité, ce livre, évidemment, est très marqué par cette question du Covid, notamment, évidemment, sur les thématiques du travail, mais aussi parce que le livre s'est construit narrativement sur la chronologie du Covid. Et moi-même, j'ai commencé à l'écrire au moment du printemps 2020, pendant le premier confinement. Et en fait, le livre commence au printemps 2020, pendant le premier confinement. C'est donc l'histoire d'un économiste nommé Émilien Long, qui est un économiste qui travaille depuis une vingtaine d'années. On est donc en 2020, mais donc ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'il travaille sur les thématiques liées à la question du temps de travail et de la productivité. Et notamment, il a mis sur pied des modèles mathématiques permettant de mesurer, de faire des comparaisons à la fois dans le temps et dans l'espace sur la question de la mesure de la productivité. Et en fait, en faisant ça, donc un travail extrêmement sérieux, rigoureux, pas forcément passionnant, il a obtenu pour ce travail-là, qui a permis donc de faire observer, on va dire, l'évolution du temps de travail et de la productivité, il a reçu le prix Nobel d'économie. Donc, c'est pas un économiste comme les autres, il est quand même prix Nobel, donc il a cette espèce d'aura symbolique que représente le prix Nobel. Alors, j'ouvre une parenthèse, pourquoi il a un prix Nobel ? Tout simplement parce que lorsque moi je me suis mis à travailler sur le roman, j'ai affronté la question de ce personnage, de ce personnage devenant candidat à la présidentielle, et en effet, il me semblait très très difficile, très voire impossible, d'imaginer une fiction avec un candidat qui était Monsieur Tout le Monde ou Madame Tout le Monde. Alors j'ai fait aussi le choix de pas prendre Madame Tout le Monde parce que ça voulait dire qu'il y avait un double plafond de verre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas issu d'un parti politique et qui en plus est une femme, il doit gagner l'élection présidentielle à la fin. Ça fait beaucoup de plafonds de verre à franchir. Donc j'ai fait le choix d'avoir un personnage masculin en me disant bon bah ça c'est on peut pas régler tous les problèmes d'un coup, donc on va affronter celui de Monsieur Tout le Monde et puis il faudra affronter celui de Madame Tout le Monde dans une autre fiction. Donc ça ne peut pas être Monsieur Tout le Monde parce que tout simplement Monsieur Tout le Monde n'aurait pas la légitimité déjà pour prendre la parole, ou alors s'il l'a, puisqu'en effet on l'a vu dans l'histoire, il n'y a pas besoin d'être un responsable politique déjà en place ou déjà connu comme tel pour prendre la parole. En revanche, il faut avoir une visibilité médiatique. Ça c'est le pari que je fais, c'est-à-dire j'ai du mal à imaginer que quelqu'un émerge sans avoir une visibilité médiatique. Donc des visibilités médiatiques, on en a vu au cours de la Ve République. Je pense par exemple, le cas le plus célèbre, c'est Coluche. Lorsque Coluche, pour les présidentielles de 1981, se présente à l'élection, bon, bah, c'est Coluche. Donc à partir du moment où il dit « je suis candidat », il y a un effet médiatique énorme qui se met en place très très vite. Hein. En quelques jours, ça prend très vite un phénomène très important médiatique. Et ensuite, sondagier. Parce que, comme vous le savez, il est testé jusqu'à 15% dans un sondage. Et alors là, évidemment, c'est affolement général, notamment à gauche, puisqu'il y a la crainte qu'en fait, au premier tour, il capture des voix de gauche et qu'il empêche Mitterrand d'arriver au second tour. Donc, Jacques Attali est dépêché auprès de Coluche pour lui demander de retirer sa candidature. Ça a été raconté à la fois dans des livres et puis dans un film qui est sorti il y a une dizaine d'années. Mais bref, donc je fais le choix d'avoir un personnage qui, parce qu'il est prix Nobel, justement, a cet accès médiatique, il peut légitimement prendre la parole et dire voilà, je suis candidat pour défendre cette question des 3 heures par jour. Alors, je reviens à la question du roman, puisque en parlant du personnage, j'ai perdu le fil du roman. Le roman a cet avantage aussi, je pense, par rapport à la bande dessinée, que c'est un genre extrêmement plastique, extrêmement souple, dans lequel on peut faire vraiment, avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Notamment, on peut faire beaucoup de sociologie. Hein. Vous savez que le roman a accueilli beaucoup d'enjeux sociologiques dans ses pages, que ça soit dans Madame Bovary. Je prends 2 exemples hein, qui n'ont rien à voir, mais Madame Bovary de Flaubert, donc en 1857, ou les choses de Georges Perec. Le roman peut être un roman très violemment sociologique. Le roman peut être aussi un roman politique. Et d'ailleurs, puisque je vous parlais donc de l'utopie de Thomas More, il faut rappeler qu'en fait, le livre est construit... non, ça n'est pas un essai, hein, c'est bien une fiction. Alors évidemment, ce n'est pas ce qu'on appelle un roman, parce que ce n'est pas le genre codifié du roman tel qu'on le pratique maintenant. Mais en réalité, on parle bien d'une fiction avec un personnage qui dit, ben voilà, moi je suis parti sur cette île d'utopie, et j'ai vu des choses vraiment étonnantes et j'aimerais bien vous les raconter et tout ça. C'est un dialogue et en fait, évidemment, il va tirer le fil et en fait, Thomas More va bâtir un essai, bien sûr, pour nous proposer une société idéale, cette fameuse société utopique. Mais en fait, au lieu de le faire sous forme d'essai, il l'a bien fait sous forme de fiction. Donc cette idée de faire un roman qui prenne en charge à la fois la sociologie et la politique, et pour moi, c'était aussi donc cette façon, comme je vous le disais tout à l'heure, de traiter cette thématique de l'utopie réaliste. Et là, je me suis rendu compte aussi que l'utopie réaliste, c'était le titre du programme du PSU. Donc, certains d'entre vous doivent se souvenir du PSU, hein, qui était ce petit parti qui était entre la SFIO de l'époque, donc ce qui est devenu le Parti Socialiste, et le Parti Communiste. C'était une espèce de troisième voie entre les deux. Et donc, en 1977, leur programme s'appelait l'utopie réaliste, une autre logique économique pour la gauche. Pour vous dire que, en fait, cette expression que moi j'aime beaucoup et que je cite régulièrement, je me suis rendu compte qu'en fait elle avait été très souvent employée par beaucoup de gens, y compris justement dans le champ politique. Et donc, pour faire ce roman, voilà, ce que je cherchais à faire, c'était de poser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cadre en réalité qui soit pour le lecteur justement très réaliste, mais surtout très concret, très présent, que le lecteur sente qu'il est en train de vivre cette campagne électorale. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le livre, je l'ai écrit donc en 2020. Pour qu'il sorte en 2021, parce que on allait arriver à l'élection présidentielle de 2022. Donc, c'est un récit qui commence en 2020 et qui va jusqu'à la présidentielle de 2022. Ce qui fait que lorsque les premiers lecteurs ont découvert le livre, l'élection présidentielle n'avait pas eu lieu. C'est évidemment un peu différent maintenant puisque l'élection a eu lieu. Donc, à l'époque, c'était presque plutôt un livre, on va dire, de science-fiction, puisqu'il projetait un avenir différent. Maintenant, c'est ce qu'on appellerait un livre uchronique, puisque il se décroche du réel en 2020, du réel tel que nous l'avons vécu, pour proposer un autre réel. J'aime beaucoup cette phrase que cite Jean-Luc Godard au début du Mépris. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. C'est le cas aussi je souhaite que mes romans puissent substituer à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Donc le Émilien Long se retrouve dans notre France tout à fait classique. J'ai fait le choix de ne pas nommer les responsables politiques en place, mais il est assez évident que ce sont les mêmes. Sauf que justement, à partir du moment où ma fiction commence, il y a un remaniement, par exemple, à l'été 2020. Arrive une ministre de l'économie qui s'appelle Elisabeth. Alors, donc là, on peut parler de préscience, puisque je l'ai écrit en 2020. Elle s'appelle Elisabeth Créville et donc il se trouve que par un concours de circonstances dont rien ne sera dit dans le roman, le président qui est en place décide de renoncer à se présenter. Et donc ce personnage de fiction, parce que moi j'avais évidemment besoin d'avoir des personnages de fiction, donc ce personnage de fiction devient le candidat du camp sortant, du camp que j'appelle le camp productiviste. Et donc Émilien Long l'aura comme adversaire, de la même façon qu'il a plusieurs autres concurrents dans des partis de gauche, par exemple, qui ne sont pas nommés, mais on peut imaginer que ce sont des concurrents qu'on connaît. Mais surtout, le cadre du livre, c'est donc une campagne électorale qui respecte les institutions de la Ve République, c'est les médias français. Il y a une journaliste du journal Le Monde qui est envoyée auprès d'Émilien pour suivre sa campagne. Donc c'est une jeune journaliste avec un certain franc-parler, donc aussi par son regard à elle, on va découvrir le candidat, etc. Donc le roman va suivre cette campagne électorale de façon très traditionnelle. La politique fiction, je ne l'ai pas inventée, ça existe depuis très très longtemps. Il y a eu surtout beaucoup de films, alors d'abord aux États-Unis, beaucoup de films de politique fiction. La France s'y est mise assez tard, ça fait peut-être quinzaine d'années maintenant qu'on fait beaucoup de politique fiction au cinéma et puis maintenant dans les séries. Alors maintenant ça devient un peu sans fin, il y a tout le temps des séries de politique fiction qui sont diffusées en France, enfin il y en a même plusieurs par an. Donc c'est un genre qui est très très codifié. Voilà, on a en général un candidat, souvent ce sont des campagnes électorales, parce que les campagnes électorales sont des moments d'une certaine, qui permettent une tension évidemment narrative, donc c'est plus pratique. On a un candidat, on a l'entourage du candidat, on a les adversaires du candidat, on a les obstacles qui arrivent les uns à la suite des autres. Donc de ce point de vue-là, mon livre, Paris pour tous, obéit à tous ces codes. Sauf que, évidemment, c'était tout le pari, tout l'intérêt pour moi en tant qu'auteur, et parce que j'avais envie que le lecteur, justement, vive une aventure un petit peu différente. Tout est totalement décalé, puisque donc ce candidat ne fait pas de politique, évidemment, mais l'ensemble des pratiques qu'il va mettre sur pied au sein de sa campagne sont très, très différentes des pratiques habituelles. On a un candidat qui n'est pas dans l'hubris, loin s'en faut, qui est quelqu'un qui se remet énormément en question, qui est adepte de l'horizontalité, qui s'entoure d'un certain nombre de personnalités qui sont spécialistes de leur domaine. Donc il va y avoir, j'en sais rien, une informaticienne spécialiste des logiciels libres. Il y a un poète diplomate qui va s'occuper donc des relations internationales. Il y a un jeune youtubeur qui va s'occuper de la stratégie de communication. Il y a une éditrice qui va travailler sur les enjeux culturels. Il y a un vieil agriculteur qui travaille en permaculture depuis une trentaine d'années, qui va être son conseiller agricole. Donc ce sont que des profils justement issus de ce qu'on appelle la société civile, en fait tout simplement des êtres humains. Et en effet, aucun n'a fait de politique jusqu'à présent, donc tout est très neuf, on va dire, dans leur approche. De la même façon, j'ai décalé la question du lieu, puisque la campagne se fait à Marseille. Alors, il se trouve que moi-même, j'habite à Marseille. Le personnage d'Emilien Long est un Marseillais qui est revenu, justement, qui était parti enseigner aux États-Unis quand il avait eu le prix Nobel, et donc qui est revenu depuis peu de temps à Marseille. Et donc, le livre commence parce qu'il se trouve qu'il a sa famille a un petit cabanon dans une calanque assez connue de Marseille qui s'appelle Sormiou. Et donc, pendant le confinement, il est installé dans cette calanque. C'est là donc il fait le choix de d'écrire un livre qui s'appelle donc Le droit à la paresse au XXIe siècle, où il réadapte le droit à la paresse. Et donc au moment où il lance sa campagne, il décide qu'il va le faire à Marseille. Et donc il utilise un lieu qui existe vraiment, qui est actuellement un tiers-lieu, qui est un ancien couvent qui s'appelle le couvent Leva, dans lequel justement va s'installer son équipe. Et puis la question aussi de la parole, de la prise de parole, quelque chose qui pour moi était très intéressant, c'est-à-dire qu'évidemment quand on est écrivain, on met beaucoup de soins et beaucoup d'intérêt dans la question de la parole. Je voulais que Emilien Long et lui et les gens qui l'entouraient d'ailleurs aient une parole politique qui ne soit pas une parole qu'on pourrait qualifier de standardisée, pour le dire gentiment, c'est-à-dire une parole qui fonctionne parce que elle a toujours fonctionné comme ça, elle fonctionnera toujours comme ça, et les habitudes, l'habitus, comme dirait Bourdieu, du responsable politique lui impose une certaine façon de parler. Et Emilien fait très attention justement à déconstruire aussi cette façon de parler pour justement mais aussi parce qu'il a la chance de ne pas avoir hérité, on va dire, d'une pratique qui s'est répétée, quoi. Il invente aussi sa propre parole politique. C'est quelque chose de très important, notamment à la fin du livre, lorsqu'il fait un débat avec cette candidate du camp productiviste, où justement j'ai insisté sur les différences, en fait, entre les deux façons de parler, la façon de parler de la candidate qui est un bulldozer politique, et lui qui, justement, n'ayant pas du tout ces codes-là, travaille à ne pas rentrer du tout dans sa façon de parler, et notamment travailler le silence, puisqu'il se retrouve donc à la télé dans le débat, et en fait il demande des moments de silence pour laisser les gens réfléchir, pour arrêter justement de les abreuver de mots. Donc là, je vous ai parlé de la forme, de l'idée du livre, mais il y avait donc la question du fond, comme je vous disais tout à l'heure, comment mettre de la théorie dans un roman. Et c'est là que j'ai eu cette idée qui m'a complètement sauvé la vie, parce que sinon je pense que j'aurais eu du mal, ou peut-être justement j'aurais arrêté de faire le roman. J'ai eu l'idée que donc Emilien Long écrit un essai qui s'appelle donc Le droit à la paresse au XXIe siècle, et en fait, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai écrit des morceaux de l'essai, et je les ai incorporés dans le roman. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à un chapitre, tout d'un coup, c'est l'essai. C'est plus le roman, c'est l'essai. Au début, je crois que j'avais écrit juste l'introduction et la conclusion. Alors, Alessandra me dit « Ah, mais en fait, c'est vachement intéressant cet essai, t'as qu'à l'écrire en plus du roman. » Donc, en fait, tu fais le roman et l'essai en même temps, tu fais deux livres, quoi. Je dis « Oh, ben non, pas exagérer. Déjà que je suis tout seul à faire le livre, et en plus, il faudrait que j'en fasse deux. » En revanche, après, mon éditeur me dit « Ah, mais c'est vachement bien l'essai, tu devrais en mettre plus dans le roman. » Alors, je dis « Bon, ah, d'accord, je veux bien en mettre plus. » Donc, j'ai écrit plusieurs chapitres, en fait, de l'essai. Ce qui était une astuce narrative hyper intéressante pour moi, parce qu'en fait, ça permet de jouer aussi sur des espèces de temporalités différentes, puisqu'en fait, l'essai, on sait, au début du roman, on sait que le personnage a écrit l'essai. Et en fait, après, je vais disséminer dans le roman cet essai qui date donc, du printemps 2020. Dans lequel il annonce des choses, où il parle de choses. Et finalement, en fait, on voit dans la réalité que certaines choses vont se produire, au contraire, ne vont pas se produire. Notamment quand il dit, bah, voilà, je ne verrai jamais de mon vivant le passage à une semaine de 15 heures arriver. En fait, on va voir dans le livre que les choses vont se passer très différemment. Alors, je vais vous lire, parce que je pense que c'est toujours bien de revenir au texte source, je vais vous lire le début de... Enfin, non pas le tout début, mais un extrait de l'introduction de l'essai d'Émilien Long, donc qui s'appelle Le droit à la paresse au XXIe siècle. Au début des années 1880, un économiste écrivait « Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion morbide du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture. Au lieu de réagir contre cette aberration mentale, les prêtres, les économistes, les moralistes ont sacro-sanctifié le travail. Cette folie de la sanctification du travail, c'est Paul Lafargue, gendre du célèbre Karl Marx, qui l'a attaqué dans un livre publié en 1883 qui a fait date, Le droit à la paresse. Et même si en France la durée légale du travail est aujourd'hui de 35 heures par semaine, et non plus de 80 heures, comme c'était le cas lorsqu'il écrivait ces lignes, pas grand-chose n'a changé dans notre monde actuel, à l'exception des enfants qui ont fini par être protégés, du moins jusqu'à leurs 16 ans, du moins en France. On peut donc dire, depuis maintenant trois siècles, cette étrange folie de l'amour du travail torture la triste humanité. C'est parce que l'essai de Lafargue m'a semblé important et largement oublié, j'ai voulu lui emprunter son titre, auquel j'ajoutais ce 21e siècle dans lequel nous nous trouvons, manière de dire qu'il était temps de remettre au goût du jour les thématiques et analyses de Lafargue. Il était plus que temps. Je passe un petit peu... Je reprends, donc c'est toujours Émilien Long qui parle. La paresse, ce n'est ni la flemme, ni la mollesse, ni la dépression. La paresse, c'est tout autre chose. C'est se construire sa propre vie, son propre rythme, son rapport au temps. Ne plus le subir. La paresse au XXIe siècle, c'est avoir du temps pour s'occuper de soi, des autres, de la planète. C'est se préoccuper enfin des choses essentielles à la bonne marche d'une société. C'est renoncer à l'individualisme, à l'égoïsme, à la destruction méthodique de notre planète. C'est ouvrir un espace. Des espaces, c'est se poser et même se reposer. Se poser à nouveau chaque jour la question de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on doit faire. Ne plus être un robot allant travailler, s'usant la semaine pour dépenser son fric une fois le week-end venu, en drogue de toutes sortes, numériques, chimiques, matérielles, culturelles, peu importe. Ce sont autant de misérables voyages consuméristes. On ne rattrape rien en dépensant l'argent qu'on a gagné en étant privé de sa vie. C'est déjà trop tard. On n'a qu'une vie, celle que vous êtes en train de vivre là, aujourd'hui, maintenant. Ce n'est pas un brouillon, ce n'est pas une esquisse. C'est votre vie. Vous ne pouvez pas perdre votre temps pour la gagner. Il est temps de la vivre. C'est le sens de cet essai. D'abord, de raconter l'histoire de la paresse, c'est-à-dire du temps libre, et l'histoire du travail tout au long de l'histoire. Ensuite, de prouver, je veux dire d'apporter une preuve réelle avec des données chiffrées. Une partie du contenu scientifique de mes recherches est publiée en annexe. Ceux des lecteurs qui veulent aller plus loin dans la démonstration pourront s'y référer. Démontrer qu'il est possible en France d'arriver, comme le proposait Paul Lafargue il y a 140 ans, à une journée de travail de 3 heures. Je cite Paul Lafargue, « Le travail ne deviendra un condiment du plaisir de la paresse, un exercice bienfaisant à l'organisme humain, une passion utile à l'organisme social, que lorsqu'il sera sagement réglementé et limité à un maximum de 3 heures par jour. » Alors, comme vous l'avez vu, donc j'utilise cette astuce de romancier, comme je vous le disais au début, consistant à dire « Le contenu théorique de mes recherches est publié en annexe de ce livre. » Comme on n'a que des extraits de ce livre, pas de chance, on n'a pas les annexes. Donc, il va falloir faire confiance à Émilien Long et à Adrien Klent sur le concept théorique. Alors, j'ouvre une parenthèse. Vous verrez pas, mais en tout cas, dans le livre, il y a des propositions assez claires et précises sur comment financer cette fameuse semaine de 15 heures. J'attends et j'espère qu'un économiste ou une économiste va saisir en fait de cette proposition pour essayer de la chiffrer, parce qu'en effet il faut travailler avec des données macroéconomiques. Moi, ce que j'ai pas fait, puisque d'abord je suis pas économiste et ensuite parce que moi j'écrivais un roman et non pas une thèse d'écho, mais il faut, je pense, se saisir de ces données pour voir si techniquement l'équilibre que je propose, avec notamment donc le resserrement des salaires sur une échelle de 1 à 4 et avec des taxations des salaires lorsqu'ils sont 4 fois supérieurs au SMIC, est-ce que ça permettrait justement de financer la semaine de 15 heures? Et donc, un chapitre 2 intitulé « Ne travaillez jamais », c'est un chapitre qui pose la question de comment les artistes en réalité ont interrogé le thème du travail, puisque ce que je ne vous ai pas dit, justement, si j'ai fait ce choix d'écrire ces morceaux d'essai, c'était justement pour que le lecteur ait la possibilité de se référer justement à des textes sources, parce que, comme je vous l'ai rappelé là, je considère aussi que c'est important de montrer que Émilien Long n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, ou plutôt comme un petit diable sortant de sa boîte, comme étant le premier à dire qu'il y a un problème avec la question du travail dans nos sociétés. Donc je voulais aussi donner du grain à moudre sur cette thématique, que les lecteurs puissent se référer à d'autres auteurs. Donc écoutons Rimbaud. Dans la lettre dite du voyant, le jeune Rimbaud, 16 ans, écrit à son ancien professeur Georges Isambard, qui n'a lui que 22 ans, le 13 mai 1871. « Travaillez maintenant, jamais, et jamais, je suis en grève. Maintenant, je m'en crapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. » Alors vous noterez que, peut-être inconsciemment, il dit « travaillez maintenant, jamais », et à la fin, il dit « je travaille à me rendre voyant ». C'est toute l'ambiguïté, et vous le savez, du mot « travail », puisque c'est un mot qui est polysémique. Évidemment, on sait qu'on dit, sans qu'on en soit d'ailleurs absolument certain, qu'il viendrait du mot tripalium, donc ce fameux instrument de torture à trois pieds. Mais évidemment, quand il dit « je travaille à me rendre voyant », on ne parle plus du travail salarié, mais plutôt de son activité. Il faut faire attention, bien sûr, à ce terme-là. Ensuite, nous arrivons à Aragon, qui, dans un texte qui date de 1925, qui s'appelle « Guerre au travail », écrit « L'homme qui a consenti au travail pour assurer sa vie, l'homme qui a osé sacrifier son attention, tout ce qui demeurait en lui de divin, qu'il reconnaisse ce qu'est au vrai la prostitution. Ah, banquiers, étudiants, ouvriers, fonctionnaires, domestiques, vous êtes les fellateurs de l'utile, les branleurs de la nécessité. Je ne travaillerai jamais, mes mains sont propres. » Et donc son complice, son ami André Breton, écrit lui dans Nadja en 1928, à propos de Nadja qui a dit du bien des gens qui avaient fini leur journée de travail et dans le métro le soir. Il écrit « Ces gens ne sauraient être intéressants dans la mesure où ils supportent le travail, avec ou non toutes les autres misères. Je hais, moi, de toutes mes forces cet asservissement. De braves gens, disiez-vous. Oui, braves comme ceux qui se font tuer à la guerre, n'est-ce pas ?» Alors ensuite, j'arrive à Guy Debord, qui, en 1953, écrit sur un mur à côté de la Sorbonne cette phrase donc, qui reprend à la fois celle de Rimbaud et celle de Aragon. Il écrit « Ne travaillez jamais ». Et il y a une anecdote qui est assez drôle, c'est que un peu plus tard, je crois dans les années 60, un éditeur de cartes postales qui avait donc récupéré la photo de ce slogan publie une carte postale. Donc on voit écrit « Ne travaillez jamais ». Voilà, c'est un slogan, ce qu'on pourrait appeler un slogan pré-mai 68. Et en fait, la série de cartes postales s'appelle « Conseil superflu ». Donc vous voyez, c'est un petit jeu comme ça rigolo. Sauf que Guy Debord, qui, comme vous le savez, manquait un petit peu d'humour, a écrit une lettre en fait à l'éditeur en disant « Le slogan « Ne travaillez jamais » ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil superflu ». Donc il les a attaqués en justice pour qu'ils retirent ses cartes postales, puisqu'il était choqué sur le fait qu'il ait dit « conseil superflu ». Je ne vous ai pas cité quand même, il y a encore le comité invisible. Donc le comité invisible qui écrit en 2007 ce livre qui s'appelle « Insurrection qui vient ». Ils écrivent « Nous appartenons à cette génération qui vit très bien sans cette fiction, donc du travail. Nous admettons la nécessité de trouver de l'argent, qu'importe les moyens, parce qu'il est présentement impossible de s'en passer. Non, la nécessité de travailler. » Et donc Émilien Long, après avoir fait tout ce parcours parmi ces écrivains qui disent du mal du travail, en conclut que ce modèle proposé justement de refus du travail fonctionne parce que ce sont des propositions individuelles. Individuellement, évidemment, il est facile quand on s'appelle, par exemple, Breton, de chercher des mécènes qui vont, par exemple, acheter ses manuscrits et lui permettre de ne pas faire de travail salarié pour se consacrer à l'écriture. Dans le cas des membres du comité invisible, bon, voilà, il y a éventuellement des parents qui vont financer l'achat d'une maison dans laquelle ils vont tous s'installer. Donc, individuellement, on peut faire sécession avec la question du travail. Mais Émilien Long, lui, considère que justement la réponse individuelle n'est pas une réponse qui fonctionne, puisque c'est la société entière qui doit remettre en question et doit réinvestir cette question du non-travail. Et donc du coup, il dit, bah, évidemment, j'imagine que pour tous ces auteurs, le fait de proposer 15 heures par semaine, c'est un horrible compromis avec le monde productiviste. Mais à l'inverse, c'est la seule solution pour que la société entière bascule dans un nouveau paradigme du travail. Alors, un peu plus tard, le chapitre 5 de son essai s'appelle « L'humanité en train de résoudre son problème économique ». Là, c'est un chapitre justement où Émilien reprend la théorie, cette fois, on va dire, philosophique et économique, sur la question du temps de travail. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il repart de Sénèque, hein, donc ce philosophe grec du début de notre ère, qui était donc, comme vous le savez sans doute, un stoïcien et qui donc a écrit un livre qui est très connu, dont le titre est très connu, qui s'appelle « De l'oisiveté ». Mais en réalité, c'est pas dans ce livre qui parle vraiment de la question du travail, c'est dans un autre livre qui s'appelle « De la brièveté de la vie », où il explique justement que la vie étant brève, il faut faire attention à ce qu'on en fait. Donc je vous cite Émilien Long qui cite lui-même Sénèque. Sénèque rappelle que personne ne vous restituera vos années, personne ne vous rendra à vous-même. La vie marchera comme elle a commencé, sans retourner sur ses pas ni suspendre son cours. Or, un homme trop occupé ne peut rien faire de bien. À l'inverse, celui qui n'emploie son temps que pour son propre usage, qui règle chacun de ses jours comme sa vie, ne désire ni ne craint le lendemain. Et donc, parce qu'il écrit à son beau-père, en fait, il lui dit « prenez un peu de temps pour vous ». Et donc, c'est la première, on va dire, injonction à moins travailler, justement parce que, en bon stoïcien, il sait qu'il faut faire attention au fait qu'on n'a d'aucune seule vie et que si on crame son temps à faire trop de choses, eh bien, on n'aura en réalité pas eu de vie. Alors ensuite, Émilien saute directement au XXe siècle avec un autre philosophe qui s'appelle Bertrand Russell et qui écrit un texte en 1932 qui s'appelle « Éloge de l'oisiveté ». Et donc, Russell explique que, en gros, je ne vais pas vous lire, c'est un peu long, mais en gros, la Première Guerre mondiale a montré qu'en déstructurant complètement la société telle qu'elle fonctionnait, on a montré que les gens, en fait, il y avait beaucoup moins de gens qui travaillaient, et pour autant, la société fonctionnait, parce qu'en fait, beaucoup de soldats, en tout cas sur le continent européen, étaient partis à la guerre, donc ne faisaient plus tourner la machine économique classique, et néanmoins, la société a fonctionné, mais dès 1918, dit-il, tout le monde, à partir du moment où la guerre était terminée, tout le monde a repris son boulot comme si de rien n'était. On a relancé la machine à l'ancienne. Et donc, il écrit qu'au XIXe siècle, on disait que le travail évitait aux adultes de sombrer dans l'ivrognerie et aux enfants de faire des bêtises. Et que finalement, au XXe siècle, on continue à penser à la même chose. Et nous produisons énormément de choses dont nous n'avons pas besoin. Nous maintenons une forte proportion de main-d'œuvre en chômage parce que nous pouvons nous passer de leur travail en faisant surtravailler les autres. Quand toutes ces méthodes s'avèrent insuffisantes, on fait la guerre. Nous employons alors un certain nombre à fabriquer des explosifs et d'autres à les faire éclater, comme si nous étions des enfants découvrant les jeux d'artifice. Et donc, il conclut dans ce texte de 1932 en disant que la société actuelle, celle de 1932, mais donc on voit bien que c'est un peu le cas de la nôtre encore, que cette société a choisi le surmenage pour les uns et la misère pour les autres. En cela, nous nous sommes montrés bien bêtes, mais il n'y a pas de raison pour persévérer dans notre bêtise indéfiniment. Et donc, Émilien Long répète, il n'y a pas de raison pour persévérer dans notre bêtise. Russell donc, est un philosophe, et c'est là où bascule quelque part l'essai théorique, mais c'est aussi ce qui m'a permis de construire cette arche aussi sur l'économiste, puisque en fait un économiste très connu qui s'appelle Keynes, donc on connaît parce qu'il a écrit en 1936 le fameux livre La théorie générale de l'emploi, et donc il a aussi bâti cette théorie économique qu'on appelle le keynésianisme, qui est cette idée en macroéconomie de la politique de l'offre. Il faut en fait occuper les gens pour faire tourner une machine. C'est notamment l'inspirateur du New Deal de Roosevelt en 1932. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a écrit un autre texte qui est quand même assez différent, qui date de 1930, qui est un texte qu'il a intitulé « Perspectives économiques pour nos petits-enfants », qui a été republié en France dans les petits livres sous le titre « Lettres à nos petits-enfants ». Pas exactement une lettre, mais c'est vrai qu'en fait, il l'écrit en prospective. Donc, il est en 1930, il se projette un siècle plus tard. Donc, c'est pour ça qu'il parle à ses petits-enfants en disant quelle sera la société en un siècle après 1930. Et donc, il explique qu'en fait, le PIB va être multiplié par 4 en 100 ans. Et que donc, du coup, grâce à cela, puisqu'on aura multiplié par 4 le PIB, eh bien, on pourra diviser par 4 le temps de travail pour rester à un système de richesse équivalent. Et donc, du coup, Keynes écrit en 1930 qu'un siècle plus tard, donc en 2030, les humains n'auront plus besoin de travailler que 3 heures par jour pour faire fonctionner la machine économique. Or, écrit Émilien Long, ces 3 heures, on n'y est pas arrivé, alors qu'en réalité, les chiffres ont démontré que le PIB avait bien été multiplié par 4 entre les années 1930 et le début du XXIe siècle. Et c'est ce que je cherche à interroger Émilien Long dans son essai, c'est pourquoi est-ce qu'au lieu de profiter de ces avantages, on va dire que la productivité justement qui a explosé au XXe siècle, au lieu d'en profiter pour moins travailler, on a préféré produire plus en réalité pour continuer en continuant à travailler autant ou en baissant un petit peu puisqu'on a baissé le temps de travail jusqu'aux 35 heures. Et donc, un peu plus tard dans le roman, on arrive à la conclusion de l'essai d'Émilien Long sur donc le droit à la paresse. Et donc, Émilien Long, un peu comme moi, est fan de l'an 01 de GB. Donc, il commence sa conclusion ainsi. Dans l'an 01, le chef-d'œuvre de GB, une de mes planches préférées s'intitule « Prenez garde ». Elle déroule en parallèle le récit de travailleurs le matin sur un quai de gare. Dans un cas, ils nouent la trame effilochée du programme de télé d'hier soir avec les fils poisseux des nouvelles du matin. Ils vont au boulot. Les portes d'usine et les chaises de bureau les attendent avec confiance. Les somnambules ne s'égarent jamais. Ceux-là, vous pouvez leur raconter n'importe quoi. Que la télé est objective, que le travail est noble, qu'ils peuvent devenir vieux et malades les yeux fermés. Ils sont bien polis et respectueux. C'est la masse. Dans l'autre colonne, ils sont en voyage au boulot. Ils imaginent que le train va peut-être vers la mer. Terminus. Ce n'est pas la mer, ils le savaient bien. Mais ce sera pour demain. Ils vont à l'usine et au bureau, pas dans des petits hôtels pour faire l'amour. Mais ils savent que c'est pour demain. Ceux-là, ils sont capables un jour de filer à la mer, au bistrot, dans les squares. Définitivement. Ceux-là, ils sont redoutables. C'est la masse. Et GB ajoute une dernière ligne au bas de ces deux colonnes. Comment ce sont les mêmes? Bien sûr que ce sont les mêmes. On vous aura prévenu. J'ouvre une parenthèse sur l'an 01. C'est ça que je trouve très réussi dans le texte de GB. C'est que c'est toujours très fin. C'est jamais... Il n'impose jamais, en fait, une espèce de grille de lecture, justement, révolutionnaire, en disant, voilà, le projet de notre société, il est génial. C'est en permanence pour nous faire réfléchir. Et c'est à mon humble niveau ce que j'ai essayé de faire dans Paresse pour tous, c'est-à-dire de dire, mais en fait, essayons aussi de décrypter, essayons de réfléchir. Et en effet, ne nous laissons pas complètement imposer un point de vue, ni par une doxa, ni non plus par ce que moi, le romancier, je suis en train de vous dire. Ce que je charge, en fait, le lecteur, je lui demande plutôt de réfléchir et d'interroger ce que je suis en train de faire plutôt que de croire aveuglément à mes propositions. Alors, à la fin de Paresse pour tous, c'était aussi une idée de mon éditeur. J'ai mis 4 pages de bibliographie qui sont à la fois des textes que j'avais lus et puis aussi d'autres textes qui parlaient du thème, puisque ça me semblait important justement de faire le lien entre l'essai et le roman. Et il se trouve qu'en fait, dans la bibliographie, j'avais mis un livre que je n'avais pas à l'époque. Simplement, j'avais trouvé son titre assez drôle, puisque c'est « Travailler 2 heures par jour ». Donc, le collectif Adret, c'était un certain nombre d'auteurs, de chercheurs, mais aussi de travailleurs, qui donc a publié en 1977 ce livre « Travailler 2 heures par jour ». Et en fait, donc je l'ai lu là très récemment pour préparer cette intervention, et je me suis rendu compte, ça m'a touché, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, il avait les mêmes références, ils avaient, puisque c'est un collectif, les mêmes références que moi. Et donc, il y a un chapitre qui s'intitule « Le droit à l'utopie ». Et donc, l'auteur écrit « Mais voilà, je mélange le rêve et la réalité, ça ne se fait pas ». Le droit à la paresse, ou l'an 01, c'est agréable à lire au lit, le dimanche matin, avec le café au lait et les croissants. Pour le pain quotidien, on s'en remet aux économistes de métier. Ils ont le monopole des chiffres et l'autorisation de s'en servir. Il n'est permis d'entrer dans leur monde qu'à condition d'utiliser leur méthode. Partir de la situation actuelle et construire à coups d'enquête et d'ordinateur un plan pour les années suivantes. au rythme de 5% par an, l'avenir se développe sans rupture avec le présent. Pour ce qui est du long terme, on ne sait pas où on va, mais on y va scientifiquement. En fait, l'auteur de ces lignes s'appelle Lou Verlet. C'est un physicien, en fait. C'est un chercheur en physique de très haut niveau. Et en réalité, c'est très intéressant parce qu'en fait, il applique sa grille de lecture scientifique, justement, en disant, comme là, je viens de vous citer, en déconstruisant le discours imposé, qui est le discours de la croissance des années 70. Et donc, il déroule... franchement, le texte est très convaincant. C'est un texte qui est oublié, mais il déroule tous ses arguments. Alors, on est justement dans les années 70, donc il y a un optimisme qui n'est pas exactement le même que le nôtre. Mais je me suis dit, c'est drôle, parce que voilà, typiquement un livre que je n'avais pas lu, et pourtant, il est très présent dans Paresse pour tous, parce qu'en fait, on a justement les mêmes références. Et puis, il y a un autre texte très incroyable dans ce livre, qui est un texte d'un travailleur, en fait. Le texte est intitulé « J'ai commencé le boulot à 14 ans, en 1928, comme apprenti serrurier ». Je vous lis juste le début, parce que je le trouve très intéressant. On travaillait du lundi matin au samedi soir. 12 heures par jour l'été, 10 heures l'hiver, parce que l'électricité coûtait trop cher. On arrêtait quand il faisait noir. On est en 1928. Les jours où l'inspecteur du travail était signalé dans le pays, au lieu de faire 10 ou 12 heures, on ne faisait que 8 heures, mais ça n'arrivait pas souvent. Une fois par an. Une des choses qui me frappe quand je réfléchis à tout ça, c'est que dans ce temps-là, les gens avaient une joie de vivre. Est-ce que c'est parce que j'étais jeune ? Quand je réfléchis bien, c'est pas seulement ça. Parce que les adultes étaient comme moi. On avait sûrement une vie beaucoup plus occupée, beaucoup plus astreinte au travail, beaucoup plus rudimentaire. Le chauffage central, on ne savait pas ce que c'était. Jeune homme, j'ai toujours couché dans une chambre qui n'était pas chauffée, même quand il y avait de la neige. Le repas, on se contentait d'un seul plat, une ratatouille de légumes avec de la viande quand il y en avait, du fromage, et comme fruits, les fruits du jardin quand il y en avait. J'avais 14 ans quand j'ai mangé ma première banane. C'est une cousine plus âgée que moi qui me l'avait payée. On prenait la vie différemment. Les gens avaient une façon de se distraire que l'on trouve rarement maintenant. Aujourd'hui, avec les histoires d'horaires, de pointage, la vie de travail absolument abrutissante, et les hommes, même quand ils sont sortis du boulot, en subissent la pression. Ils n'ont plus la liberté d'esprit qui leur permettait de profiter de la vie, de jouir de tout ce qu'ils ont autour d'eux. Autrefois, malgré des heures de travail plus longues, l'homme vivait pour sa famille, dans son quartier. Il s'y sentait intégré, on le connaissait. Et après, je vais juste à la fin de ce texte, où il dit « Moi, ce qui me laisse rêveur, c'est qu'en 1928, quand j'ai commencé à travailler, les moyens de production que nous avions étaient minables, à côté de ceux que nous avons. Un tas de choses qu'on a à notre disposition maintenant, on ne les avait pas. » Mais on trouvait le moyen d'être heureux. Et maintenant, avec toute cette richesse, on a un tas de gens qui sont insatisfaits. Les maladies des nerfs, les suicides et tout ça, il y en a beaucoup plus qu'avant. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je trouve ça intéressant parce que, donc, on est en 1977 quand il fait ce texte-là, et finalement, c'est là où on voit cette bascule qui, en effet, se fait, voilà, évidemment, avec les Trente Glorieuses, où une forme de modernité triomphante, de réussite économique, d'explosion, justement, des biens et des services, en réalité, n'a pas rendu, en fait, les gens si heureux que cela. Et moi, j'insiste beaucoup dans Paresse pour tous sur le fait que, justement, une des grandes sources d'économie possibles avec la diminution du temps de travail, c'est justement l'amélioration de la santé, non seulement la santé physique, hein, évidemment, parce qu'on sait que quand on travaille, on fatigue à la fois l'organisme, on se blesse, on tombe plus facilement malade, etc. Et évidemment, la santé mentale, donc avec à la fois le nombre, évidemment, important de burn-out et de lassitude, on va dire, psychologique due au trop de travail. Et c'était chouette parce qu'une fois, j'ai fait une rencontre comme ça dans une librairie et il y a une personne qui a levé la main à la fin en disant « Mais écoutez, moi, je suis médecin et je trouve que vous avez tout à fait raison, en fait, quand je vois le nombre de gens que je traite uniquement pour des pathologies liées directement ou indirectement au travail. En fait, si on faisait s'effondrer ces pathologies-là, ben, en fait, les Français iraient beaucoup, beaucoup mieux. » Alors donc là, je ferme cette boucle sur la question du temps de travail. Donc le livre, bon, évidemment je ne vais pas vous raconter la fin, même si vous prévoyez que ça, c'est un livre qui finit plutôt bien. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce qu'on m'a fait plusieurs fois remarquer, on m'avait dit « mais c'est drôle, on est dans des sociétés très, très pessimistes, il y a beaucoup de dystopies, des livres très noirs sur l'avenir. » Et en fait, votre livre est très optimiste, vous êtes vraiment à contre-courant. Et alors, je me suis dit bah, « c'est vraiment que la société va très mal si le simple fait de faire un livre qui finit bien à la fin, c'est qu'on va à contre-courant. » Mais en effet, je pense que l'optimisme, il est au cœur de ce livre. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui fait que ce livre, est devenu un phénomène. Donc, j'arrive justement à la vie du livre. Ce livre a eu une histoire qui est vraiment très agréable pour un écrivain, puisqu'en fait, c'est un livre qui a eu une vie par lui-même. En fait, c'est un livre qui a été très, très peu médiatisé. Moi, je suis un auteur inconnu. Je ne suis pas passé du tout à la télé. Je suis... pas passé à la radio, sauf très très récemment, mais vraiment presque, enfin plus de 2 ans et demi après la sortie du livre. Il y a eu juste un article dans Libération, mais sinon très peu de presse. Et en fait, ce sont les libraires, donc il faut rendre hommage aux libraires, ce sont les libraires qui en premier se sont saisis du livre en disant ça c'est vraiment vachement intéressant. Ils l'ont mis dans la main de leurs lecteurs en disant il faut que vous regardiez ça. Et en fait, les lecteurs ensuite se sont saisis du livre et l'ont offert, l'ont fait connaître, ainsi de suite. Et en fait, c'est vrai que petit à petit, il y a eu un effet boule de neige. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'optimisme. Je pense que le fait que le livre soit porteur d'une croyance positive dans l'idée qu'un avenir autre que celui qu'on nous annonce, qu'on nous prédit est possible, je pense que ça a fait du bien. Alors parfois, ça a pu faire du bien, mais de façon un peu complexe, puisqu'il y a pas mal de lecteurs qui m'ont reproché en me disant « mais quand on referme le livre, on revient à notre réel et c'est vraiment pas très marrant, donc on vous en veut un peu ». D'autant que, alors ça c'est vraiment quelque chose qui a été très troublant pour moi, c'est que donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'invente un personnage qui n'est pas un responsable politique, qui fait une proposition extrêmement différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et qui en fait... petit à petit explosent les sondages. Et en fait, donc le livre est sorti au printemps 21, et puis donc on est arrivé à l'automne 21, et en fait, il y a eu un candidat qui cochait à peu près toutes ces cases-là. Il n'était pas, il venait pas du monde politique, et il avait une certaine aura médiatique, et il a explosé les sondages. Mais le problème, c'est que ce candidat n'était pas du tout, n'avait pas du tout le profil d'Émile Nanon. Et c'était comme une espèce de double maléfique. Donc là encore, c'était difficile parce que les gens lisaient Paris pour tous en se disant « Ah, génial !» et tout. Puis ils voyaient à la télé ce qu'on disait « Ah, c'est pas exactement ce qu'on nous avait promis. » Donc c'était un peu compliqué. Mais ce qui est très chouette, c'est que ce mot « paresse », alors vous avez vu, Émilien dit « la paresse, c'est pas la flemme et tout ». C'est un mot qui est un peu compliqué, le mot « paresse », parce que c'est un mot qui a une certaine vision péjorative. Enfin, il est chargé d'un caractère péjoratif. Et en fait, c'est un mot qui a été quand même repris par pas mal de gens. Donc, il y a eu une librairie qui a organisé une fête de la paresse, une journée de la paresse. Il y a un festival qui s'appelait un grondement paresseux. Donc, j'ai senti, alors évidemment, j'ai cet avantage de ne pas être l'inventeur du mot paresse, même pour un titre de livre, puisque évidemment, là, je ne faisais que reprendre la Fargue. Mais c'est vrai que le fait de réentendre ce mot paresse, alors on l'a entendu aussi au moment des manifestations contre les retraites, de défendre justement le droit à la paresse, et en effet, en rappelant que le droit à la paresse, c'est pas le droit de la glande, c'est simplement le droit à avoir moins de travail. Mais, en effet, je ne pouvais pas m'arrêter là, je ne pouvais pas m'arrêter à ce récit d'un candidat. Je voulais aussi, pour moi, c'était très important, ça faisait d'ailleurs partie des choses dont on avait parlé au début avec Alessandra, de poser la question d'aller au-delà d'une campagne électorale et de voir ce que c'était que l'exercice du pouvoir. Pour reprendre le vieux concept de Bloom, entre la conquête du pouvoir, l'exercice du pouvoir, ça me semblait important de traiter des deux. Et donc c'est pour ça que le c'est un diptyque, donc il y a la suite qui s'appelle « La vie est à nous », où là on se retrouve avec un président élu. Et comment est-ce que c'est qu'un président élu qui a été élu sur un programme aussi radical, est-ce qu'il va être capable de le respecter, est-ce qu'il va être capable de l'appliquer, et comment est-ce que la société va réagir? Et donc là, je me suis retrouvé dans une situation qui était vraiment très agréable pour moi, puisque je me retrouvais comme si j'étais Émile Nanon, en me disant « bon ben voilà, maintenant je suis aux manettes, je suis en responsabilité, et ce que je dois faire, c'est ne pas trahir ». Et donc c'est une thématique qui pour moi, évidemment, est cruciale, et donc je rappelle que beaucoup d'expériences menées au niveau national de rupture profonde avec le modèle économique capitaliste, productiviste, s'arrêtent assez vite, que ça soit malheureusement Blum qui, dès février 1937, décide la pause, que ça soit le tournant de la rigueur en 1983, que ça soit la décision en 2000 du gouvernement socialiste de diminuer les impôts et de faire une politique, on va dire, relativement différente de ce qu'ils avaient fait entre 1997 et 2000, sans parler évidemment de ce qui s'est passé en 2014 où là encore les promesses qui n'avaient peut-être pas été très importantes n'ont pas non plus été complètement tenues. Et donc, je voulais que mon personnage de fiction, lui, tienne en fait ses promesses. Et donc, c'était très agréable pour moi, comme je vous le disais, de pouvoir montrer que c'était possible en réalité. Alors simplement, lui, en effet, il doit trouver une astuce technique pour que ces fameux 3 heures par jour n'empêchent pas le modèle, la vie économique de fonctionner. Donc, en fait, il y a deux possibles. En fait, il y a les 15, ceux qui travaillent 15 heures par semaine. Et puis, il y a ceux qu'on appelle les décalés, qui continuent à travailler 5 jours par semaine, mais simplement qui utilisent un cinquième de leur temps qui est décalé pour une association, pour une entreprise d'intérêt général, pour certains secteurs culturels, ce qui permet du coup de rééquilibrer en fait là où il y a des vides ou des besoins cruciaux. Et puis évidemment, il y a la question des hôpitaux, etc., où là, on a diminué graduellement le temps de travail, puisque dans La vie est à nous, on est 3 ans après l'élection, donc dans un moment où ça fait déjà 3 ans qu'on est passé à cette loi sur les 15 heures. Et puis, il y a d'autres thématiques, ça a bien été dit en introduction, et notamment la question du monarque, hein, puisque la Ve République, c'est tout simplement une adaptation de la cour de Louis XVI au modèle démocratique. On vote pour un roi qui a quand même un pouvoir énorme, en réalité. On le voit d'ailleurs dans le cadre d'une majorité relative à l'Assemblée, on se rend compte quand même que le pouvoir exécutif est en position d'imposer énormément de choses. Et surtout, il y a une prise de parole et une prise de décision qui est entre les mains d'une seule personne. Et donc ça, évidemment, Émilien Long, dès le début, était contre. Mais justement, comme je vous le disais, il accepte les règles de la Ve République. Donc c'est lui qui est candidat pour la présidentielle. Mais une fois qu'il est élu, il propose carrément donc une réforme constitutionnelle dans laquelle, en fait, un groupe... ça serait un groupe donc de co-présidents, puisque le terme co est beaucoup utilisé dans La vie est à nous, dans le 2, notamment avec le terme co-liberté, hein, qui remplace le mot paresse. La co-liberté, c'est de dire qu'on obtient plus de liberté, puisqu'évidemment on travaille moins, mais qu'en fait, cette liberté, on a un projet commun, en fait, c'est pour la société ensemble, c'est pas pour que chacun dans son coin s'installe sur son canapé et regarde Netflix, mais plutôt pour qu'on bâtisse ensemble un modèle de société. Donc le terme commun, donc la co-liberté, on est co-libre. Et de la même façon, donc Émilien Long propose un système de co-président où donc on aurait plusieurs co-présidents, présidents qui seraient le pouvoir exécutif, on va dire justement présidentiel, ce qui n'empêche pas évidemment ensuite d'avoir un gouvernement et un parlement. J'accélère un peu parce que j'ai l'impression que je suis long. Je sais pas, j'ai même pas regardé l'heure. On va accepter l'idée qu'il faut conclure. Plus exactement, je vais accepter. Parce que c'est moi qui monopolise cette parole. Je vous disais au début, donc, le utopie, hein, le ou topos, le non-lieu, c'est quelque chose qui, en même temps, peut sembler un peu noir, justement, que cette utopie n'existe pas, puisque c'est un non-lieu. Je pense que c'est très important, en fait, quand je parle d'utopie réaliste, d'inverser quelque chose des thématiques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on utilise beaucoup le mot réaliste, enfin, pas on, justement, des gens utilisent beaucoup le terme réaliste en disant « Ah, il faut être réaliste. Ah, soyons réalistes. » Mais non, vous n'êtes pas réaliste. Et en fait, il faut faire très attention, et d'ailleurs, je l'ai retrouvé dans le livre de Adrey, là, il faut faire très attention à ce que ce qu'on nous dit, quand ces gens-là nous disent qu'ils sont réalistes, de quelle réalité et de quel réalisme ils parlent. Et donc, pour conclure, je voulais vous citer un moment où, justement, Émilien Long répond à Elisabeth Créville, c'est le débat du second tour, et elle lui dit « Écoutez, il faut que vous admettiez, et d'ailleurs, si vous étiez élu, j'espère qu'au moins vous auriez le courage de reconnaître que votre loi des 15 heures ruine la France, et donc, j'aimerais que vous acceptiez, que si vous ruinez la France, de faire machine arrière. » Et donc, Émilien lui répond « Qu'appelez-vous ruiner la France? Serait-ce empoisonner ses cours d'eau, ses nappes phréatiques qui nous permettent de boire? Serait-ce appauvrir ces terres en leur imposant des rendements délirants, des millions d'hectares de maïs destinés à nourrir des animaux qui surprotéinent nos repas, affaiblissant notre santé? Serait-ce couper ces arbres et ces haies, ceux-là même qui empêchent l'érosion des sols et accueillent le petit gibier, si nécessaire à la biodiversité? Serait-ce polluer l'atmosphère et nos aliments à coups de gaz carbonique et de pesticides? Serait-ce tuer tous les insectes sans lesquels nos fruits, nos légumes, nos fleurs ne seront plus pollinisés? Serait-ce couvrir de béton tout notre sol, remplacer les forêts par les centres commerciaux? Serait-ce laisser des familles entières, sous prétexte qu'elles n'ont pas de titre de séjour, vivre dans des tentes aux abords des villes? Serait-ce creuser le déficit de l'assurance maladie en remboursant des millions de cachets d'anxiolytiques, alors que des alternatives naturelles largement plus efficaces, yoga, méditation, plantes, ne sont pas remboursées? Serait-ce conserver un système éducatif privé inégalitaire dont les enseignants sont payés par le budget de l'État? Serait-ce permettre aux plus riches de ne pas payer le moindre impôt par une série de dispositifs légaux d'évasion fiscale? À mon sens, c'est cela, ruiner la France. Or, c'est votre France, celle que vous défendez, celle que vous prônez, qui fonctionne ainsi. Ma France, c'est facile, elle ferait tout le contraire. Ma France sera riche de ses véritables richesses. La solidarité, la fraternité, le partage, la santé, la beauté, la vie. Merci.
Merci beaucoup. On va ouvrir un petit temps de questions-réponses jusqu'à à peu près 20h15, si ça vous va. Donc on peut prendre une série de questions ou de remarques, de réactions. Ça peut être...
J'ai lu ces mots et ça m'a beaucoup marqué. Je pense que c'est une lecture qui a marqué beaucoup ma vie. Donc merci. Je ne pensais pas entamer une lecture politique quand j'ai entamé ces livres, mais en fait, ça l'est énormément. Et on finit ces livres en se disant que ce modèle de société, il est possible. Donc ma question ce soir, c'est est-ce que vous, Adrien Klent, vous arrivez à vivre au rythme de cette société ?
Vous voulez dire de celle dans laquelle on vit ?
Non.
Ou de celle... franchement... C'est très facile de vivre à ce rythme-là de 3 heures de travail par jour. Moi, il se trouve qu'étant écrivain, je suis de toute façon dans un système de, comment dire, un rapport au temps qui n'est pas du tout standard, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est-à-dire que je travaille ni 3 heures par jour, ni 8 heures par jour. C'est un peu non mesurable, mon propre rapport au temps de travail. En revanche, je ne sais plus si je le dis dans le livre, mais... Je pense que c'est toujours très intéressant de voir la façon dont les gens qui sont salariés en fait redécouvrent lorsqu'ils sont en congé en fait en vacances le rapport au temps et combien en fait on a un rapport au temps très très différent justement quand on est en vacances justement parce qu'on éprouve ce que serait une vie avec beaucoup plus de temps libre. Donc je honnêtement je ne crois pas si je comprends votre question, je ne crois pas que quiconque aurait du mal à vivre dans une société où on travaille que 3 heures par jour et c'est vrai que c'est parfois des reproches qu'on fait de dire mais en fait en effet les gens ils vont rien faire d'intéressant parce que moi je suis persuadé et d'ailleurs je pense qu'on a même des études scientifiques qui le démontrent que plus on a de temps libre plus on est justement créatif plus on est capable de choisir et d'avoir envie de faire des choses à la fois pour les autres, pour soi-même, etc. Donc je pense en effet qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'asservissement, je pense qu'on l'a entendu dans plusieurs extraits que je citais, il y a quelque chose de l'ordre de l'asservissement et du contrôle de la pensée aussi par le surtravail, quoi. Et le fait de renoncer à ça, d'enlever en fait cette espèce de camisole mentale, on va dire, bouleverse complètement le rapport des gens et modifie profondément, je pense, la façon dont les gens peuvent du coup se saisir de ce temps libre, quoi. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. C'est à peu près ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Je pense encore une fois qu'on a tous ressenti physiquement ce que c'était que d'avoir plus de temps et de justement se préoccuper de faire aussi des choses avec ses mains, d'avoir du temps pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Et cet extrait que je vous ai cité là du monsieur qui a commencé à travailler en 1928, je trouve très intéressant aussi dans cette bascule où finalement on se dit mais on est censé avoir du temps, mais en même temps on ne sait pas ce qu'on fait de ce temps. En fait, cette modernité, elle a aussi brouillé un tout petit peu la question de notre capacité à être maître en fait de notre esprit, de nos joies, etc. Tout est un tout petit peu dilué, fragmenté, séquencé, individualisé, et donc je pense qu'on a plus de mal.
Oui, donc moi j'ai pas encore lu votre livre, mais je le lirai bien volontiers. Mais par contre, je suis une personne âgée, et donc 2 heures par jour, travailler 2 heures par jour, adrès, bien sûr, je l'ai à la maison, bien sûr, on l'a lu, au moment où on voulait, les 32 heures, la semaine de 4 jours, etc., où on interrogeait justement des cadres qui étaient tout à fait prêts à voir baisser leur salaire pour avoir du temps libre. Bon, ça n'a pas été les 32 heures, ça a été les 35. Et aujourd'hui, donc on est en train, je suis dans une association qui s'appelle Accordage, et on est en train de faire un film sur la place du travail dans la vie. Et on interviewe plein de gens, des gens de 40 ans, un peu plus, un peu moins, et qui font des reconversions. Pourquoi ? Souvent, ils ont fait des études, enfin pas tous, hein, mais ils ont fait des études, mais ils ont un travail qui n'a plus de sens pour eux, ils se reconnaissent plus, et donc ils choisissent une reconversion. Alors peut-être effectivement dans des métiers manuels, je pense à une personne qui était ingénieur des travaux publics, qui est potière, enfin je pourrais vous citer plein d'exemples, mais effectivement c'est actuellement la question que tout le monde se pose, pourquoi je travaille, pour qui, quel sens, et je pense qu'effectivement il y a beaucoup de burn-out qui pourraient être évités si on se posait la question de, du sens du travail. Donc je pense effectivement que vous êtes en plein dans l'actualité avec ces questions. Je voudrais juste ajouter que je pense qu'il faut, il faut distinguer ce qu'on appelle emploi et travail. Parce qu'il y a l'emploi contraint qui effectivement finit, on finit par refuser, mais il y a plein de gens qui se reconvertissent, mais il ne faut pas croire qu'ils travaillent moins. Mais ils mélangent les temps. Ils ne disent pas, je me rappelle quelqu'un qui disait, je prends mon habit de chef de travaux publics ou je prends mon habit autrement, alors que là, les temps sont mélangés. Ils se sentent, l'équilibre se fait entre vie personnelle et vie professionnelle et vie militante. Les temps sont mélangés, mais ce n'est pas du temps contraint. Mais ça ne veut pas dire que c'est moins. Mais est-ce que c'est travailler de faire une poterie? Est-ce que c'est travailler de faire de son autoconstruction, etc.? C'est plus mélangé.
Bien sûr. Bon, j'ai été trop rapide sur cette différence entre l'activité et le travail, mais il faut faire bien la différence. En effet, avoir des activités, c'est consubstantiel à l'être humain, on est d'accord. En fait, quand ce que vous dites, c'est très très juste. Je pense que, en fait, la crise du Covid a vraiment joué un rôle, on va dire, comme une espèce de... C'est des choses qui étaient en germe. Enfin, je veux dire, le fameux livre sur les bullshit jobs, il était sorti en 2017, 2018, je crois. Donc, on parlait beaucoup de ces thématiques, de ces boulots absurdes que les gens font sans aucun sens, sans comprendre pourquoi ils doivent les faire, etc. La crise du Covid, ça a été comme une espèce de coup de poing qui a secoué vraiment beaucoup, justement, parce qu'aussi beaucoup de gens ont arrêté complètement de travailler et se sont demandé finalement, en disant, mais en fait, à quoi sert mon travail? Parce que finalement, là, je ne le fais pas, mais ce n'est pas complètement utile à la société, etc. Et en effet, je pense qu'aussi la forte importance du travail manuel dans les dernières années, les reconversions nombreuses, en fait, mais là encore, ça datait d'avant le Covid. Je pense qu'il y a eu une accélération avec le Covid. Il y a des chiffres qui disent ça. C'est en effet le signe de gens qui se disent, mais en fait, comme je citais cette phrase, on n'a qu'une vie, en fait. Donc, si on ne change pas maintenant, ben, ça sera trop tard après, en fait. Donc, et notamment, justement, avoir une activité ou un travail qui correspond plus à nos aspirations et moins à une fiche de paix, en fait, c'est quelque chose, je pense, les gens ont pris aussi peut-être plus conscience de la fragilité de la vie. On est dans des sociétés où on est quand même assez bien entouré médicalement, donc on ne se sent pas très fragile. Et donc, du coup, là, peut-être le Covid a rappelé qu'on était... on était quand même assez fragiles, les humains, tout pouvait s'arrêter rapidement. Et donc, je pense aussi que ça a obligé tout le monde à s'interroger sur le fait que, en fait, si tout s'arrête demain, est-ce que j'aurais vraiment fait ce que je voulais faire? Et oui, je trouve ça chouette que vous disiez que vous avez lu le livre de Hadret, parce que je crois qu'il y a eu aussi dans les années 70 beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations là-dessus. Puis c'est vrai qu'on a perdu ça à partir des années 80 avec une espèce de libéralisme triomphant mondial, hein, évidemment, qui, avec Thatcher, avec Reagan, tout ça, qui a vraiment écrasé quelque chose de la pensée, alors qu'en France, on aurait dû en tout cas protéger plus.
Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui connaissent des libraires, a priori, qui m'ont offert le livre. Donc, je l'ai lu au moment de la sortie. Et en fait, quand je l'ai lu, enfin, les premiers chapitres sont hyper bien faits. J'ai vraiment cru à l'histoire, dire que j'ai pas pensé que c'était un roman. J'étais complètement naïve. Voilà, parce que je connais pas les bouquins économiques et que du coup, je me suis mis dedans. Et puis après, on découvre qu'effectivement, c'est très utopiste et que c'est romancé. Et du coup, je me suis posé la question de savoir s'il avait été... Enfin, vous disiez qu'il n'avait pas été repris par des économistes, mais si des élus, puisque c'était avant les élections, l'avaient repris, s'il y avait eu des débats... On est en plus à Grenoble, il y a des listes citoyennes, on est dans le pays de Bedou, enfin tout ça. Et du coup, je me suis demandé si, alors sûrement pas au niveau national, mais si peut-être au niveau d'autres échelles, ça avait été repris et des sujets de débat.
Maintenant, je vous réponds oui. Quand on me posait cette question entre 2021 et 2022, je disais non. J'ai été très surpris au début. Ça ne semblait pas du tout intéresser les responsables politiques, mais... j'ai compris déjà que les responsables politiques n'avaient pas de temps pour lire. Donc, et quand ils ont du temps pour lire, en général, ils lisent des essais, justement, parce qu'ils considèrent que ça va les nourrir par rapport à leur pratique. Donc, ils lisent pas de romans. Donc déjà, c'était le handicap de base de ce livre. C'est un roman, sauf que comme je vous l'ai montré, c'est un roman-essai. Donc, en effet, il aurait fallu dire, attention, ceci est un roman, mais c'est aussi un essai, vous pouvez le lire. Et le fait est, voilà, on a perdu beaucoup de temps, mais quand même, et là encore, c'est la joie du bouche à oreille. Quand même, ces livres ont fini par arriver dans les mains de responsables politiques. Et là, on va dire cette année, en 2023, donc 2 ans après la sortie de Paresse, mais c'est peut-être aussi la sortie de La vie est à nous qui a relancé. Et puis La vie est à nous, il est peut-être plus directement politique. En tout cas, j'ai commencé à avoir pas mal de signaux de députés, de maires, de responsables politiques qui se sont intéressés, en fait. J'ai fait des dialogues, je vais en faire un la semaine prochaine à Toulouse, avec la députée de Toulouse, une députée écolo qui s'appelle Christine Arrigui, qui a convié aussi Raquel Garrido. Donc, voilà, très tardivement, on va dire, j'ai eu le sentiment que ça pouvait intéresser le champ politique. C'est frappant d'ailleurs de se dire que, de la même façon que les médias ne se sont pas complètement intéressés, les médias, on va dire mainstream, ne se sont pas complètement intéressés au livre, les responsables politiques ont eu aussi beaucoup de mal à s'y intéresser. J'ai en effet tendance à penser que le roman semble pas sérieux, quoi, et que donc c'est pour ça que les gens s'en sont pas saisis. Mais mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est assez intéressant. Ça met dans une position un peu complexe parce que justement, je me retrouve. Je suis pas du tout moi là pour faire de la politique. C'est vrai que je suis un romancier, j'ai mes armes et mes pensées de romancier, et en même temps je trouve important, je vais pas non plus dire j'ai écrit ça, maintenant ça me concerne plus, débrouillez-vous. Donc j'accepte de prendre la parole dans ces cadres-là sans être complètement sûr que c'est totalement ma place, sans savoir exactement à quoi ça sert, est-ce que ça sert, est-ce que je suis récupéré, j'en sais rien. Voilà, je me pose des questions, mais en tout cas, je trouve intéressant. Disons que je préférerais qu'ils en parlent eux entre eux plutôt qu'éventuellement avec moi, parce que je trouve que il y a matière à réfléchir pour eux aussi, la façon dont je parle du personnel politique, à la fois celui qui est en place, celui qui pourrait être différent de celui qui est en place, etc. Quoi.
Oui, je m'excuse, je voudrais pas jouer le rôle du rabat-joie, mais quand même une idée un petit peu. Le travail, on travaille un peu moins, si vous voulez, on prend notre pays, la France, si on travaille un peu moins, mais avoir une vision un petit peu mondiale de l'affaire. Si c'est mécanisé, si c'est robotisé, tout ce qui est pénible est fait par les machines, qu'on travaille 2h30, 3h, ou qu'on supervise les machines, banco. Mais sinon, si on se met à vraiment. D'un coup, de façon aussi brutale, de travailler beaucoup moins. Et comment faire entendre raison aussi à nos amis les Chinois, les autres pays, si eux, ils continuent, je veux dire, d'un seul coup, il y a un gouffre qui va se creuser. Si c'est travailler pour enrichir, si vous voulez, les actionnaires et la voracité qu'ils ont pour certaines choses et puis spolier la planète, ça, non. Mais sinon, il faut quand même aussi se positionner quand même, on n'est pas tout seul sur la planète. Quoi.
Alors, tout à fait. Dans le deuxième, dans La vie est à nous, il y a toute une thématique sur l'internationalisation du concept, justement d'essayer de faire développer dans d'autres pays, que d'autres pays se saisissent de cette question. Mais cela dit, votre question est intéressante, parce que vous dites comment on va faire si les Chinois continuent, par exemple, à être ultra-productivistes. Comment on va faire? Il faut continuer à faire ce qu'on a fait là pendant des décennies, c'est-à-dire un peu n'importe quoi. Ça nous empêcherait pas, nous, de faire un peu moins n'importe quoi que avant ou que eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelle est la crainte que eux soient de plus en plus riches et des bagnoles de plus en plus perfectionnées et des écrans plasma de plus en plus grands? C'est un risque, mais c'est pas justement le projet. C'est peut-être de se dire, est-ce qu'on n'est pas allé déjà beaucoup trop loin dans les biens dont on dispose, le surconfort que dans lequel on est, et est-ce qu'on ne devrait pas interroger aussi la nécessité de tout ce qui fait notre monde moderne, notre monde riche, quoi, en fait. Donc, si votre question c'est de dire, eux, ils vont pas s'arrêter tout de suite, d'accord, ils vont peut-être pas s'arrêter tout de suite, mais pour autant, est-ce que ça veut dire que nous, on devrait pas s'arrêter? Enfin, je veux dire, c'est pas parce que les autres continuent à faire la connerie que nous, on peut faire, on n'a pas le droit de faire plus intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, si vous me disiez, si vous me disiez, ça va faire la guerre. D'accord, parlons-en. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il y aura une guerre entre les productivistes et les réalistes, ceux que j'appelle les réalistes, c'est-à-dire ceux qui acceptent qu'il faut arrêter de produire. En tout cas, je suis pas du tout moins persuadé que ça créerait des problèmes que la Chine soit plus riche, que les Chinois soient plus riches que nous. Quel est le problème, si ce n'est la honte qu'on aurait, nous, Français, d'être relégués en bas de tableau.
Si c'est organisé par une instance internationale qui fait que ça régule un peu tout ça de façon prégnante et comment dire, effective, pourquoi pas ? Sinon, supposer que c'est travaillé pas seulement pour être plus riche, mais effectivement, je vais pas prendre un exemple de ça. Comment dire, ce qu'il y a comme dans les bouquins, comment dire, de théologie, le péril jaune, s'il venait pour nous envahir, je dis n'importe quoi.
Mais, enfin, bon, mais quel serait leur intérêt de nous envahir vu qu'on
j'en sais rien. Eh ben, allez savoir. Pour prendre. Eh ben non, c'est pas aussi binaire parce qu'il y a, on va prendre un village en Scandinavie pour prendre son lithium, machin. Peut-être en France, sous le sol, on va trouver l'hydrogène, oui. Machin. Alors, ils sont en train de, les Chinois, ils sont en train de prendre l'hydrogène à bas prix d'Albanie. Non, c'est pas, je veux dire, faudra un tout petit peu se.
D'accord,
parce que c'est presque, mieux, c'est presque un peu question, nombriliste de d'avoir ce discours. C'est presque un peu nombriliste, voyez.
Ouais. Oui. Bah, c'est-à-dire que c'est nombriliste. Après, on est de toute façon l'Europe est de toute façon un tout petit peu hein, comme une espèce de bizarrerie de toute façon dans le reste du monde. Donc. Mais je comprends mieux votre question. C'est-à-dire, en effet, il y a le risque que du coup, on affaiblisse notre défense. Hein, faut plutôt le dire clairement comme ça. Et que du coup, on se fasse voler nos ressources qui sont essentiellement la Tour Eiffel. Hein. Parce qu'on peut pas dire qu'on ait beaucoup de lithium à disposition en France, quoi. Mais oui, je vois ce que vous dites. Il faudra quand même conserver un minimum de défense, quoi, pour pas que n'importe quel pays qui soit surproductiviste décide de venir s'installer pour profiter des plages atlantiques et de la Méditerranée.
Bonjour. Moi, alors, j'ai lu les deux livres et à la fin du deuxième, alors, je l'ai lu juste la semaine dernière, mais quand vous arrivez, il fallait que je le lise.
C'est bien.
Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'en 6 ans, tout réussit à Émilien Longue. C'est-à-dire, du début jusqu'à la fin, il y a quelques débats venimeux, il y a quelques agriculteurs qui sont au bord de la route qui l'arrêtent, mais au final, tout lui réussit en moins de 6 ans. Et vous avez dit en démarrage que ce qui était le postulat, c'est qu'il fallait un prix Nobel de l'économie. On ne l'a pas encore, et je crois qu'il y a très peu de thèses économiques sur ce sujet. Alors ma question serait, qu'est-ce qui manquerait en fait pour nous, pour accélérer, pour que ça aille si vite? Et selon vous, que ce ne soit pas une utopie, mais que ce soit vraiment réaliste quoi.
Alors, deux choses. J'ai déjà entendu cette critique dire « Ah, c'est trop facile pour lui, il y arrive toujours » et tout ça. Bon, ce que je prends comme explication dans ces cas-là, c'est de dire, bah, c'est comme si vous regardez Roland Garros. C'est une idée d'ailleurs de Jean-Luc Godard de dire, en fait, au début, on filme tous les joueurs de Roland Garros. On met les caméras qui les suivent tous individuellement. Et puis, comme ça, à chaque fois, ils sont éliminés et tout. Puis après, à la fin, on fait un film, on ne garde que le parcours de celui qui a tout gagné, quoi. Et donc, évidemment, quand on filme le parcours de celui qui a tout gagné, il a tout gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'histoire du livre, c'est l'histoire d'un gars qui arrive. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'il a triomphé des obstacles. C'est bien parce qu'à la fin, il y arrive. S'il n'y arrivait pas, ça serait une autre histoire. C'est pour répondre de façon un peu blagueuse, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'obstacles. Il y en a plein. Je veux dire, il y a plein de moments où il pourrait s'arrêter, où ça ne va pas, où il y a des problèmes et tout. Il pourrait tout simplement ne pas être qualifié au second tour. Il pourrait ne pas gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Il se trouve qu'il gagne. Bah oui, parce que c'est mon histoire. Dans mon histoire, il gagne. Puisque justement, j'ai envie que. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai envie de faire un livre optimiste. Donc j'ai envie qu'à la fin. Les gentils gagnent, quoi. Donc c'est pas absurde, si vous voulez. Narrativement, en tout cas, c'est normal qu'ils gagnent. Maintenant, pour répondre à votre question, comment est-ce que ça devrait se passer dans la vraie vie? Alors là, oui, en effet, on a ce problème de qui devrait, en fait, incarner ce personnage. Moi, j'ai pas de réponse. Je veux dire, c'est pas forcément un économiste. Quand je parle de Coluche tout à l'heure, ça pourrait très bien être une figure médiatique autre qui a une certaine notoriété et qui utilise cette notoriété pour proposer une rupture profonde, on va dire, avec le modèle de société dans lequel on est. On a une prix Nobel d'économie, hein, qui me semble très chouette. Je suis pas sûr qu'elle ait envie de se présenter à la présidentielle, mais je veux dire, ça, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, et surtout, ça peut être n'importe qui. Ça peut être aussi une initiative citoyenne tellement puissante qu'elle explose médiatiquement. En fait, en vérité, je suis pas certain que ce soit impossible. En fait, le seul truc, c'est qu'il faut en effet que ça ait lieu, quoi. Et jusqu'à présent, ça n'a pas complètement lieu. L'histoire de l'élection de 2017, c'est quand même l'histoire de. C'est l'histoire impossible aussi. Si j'étais ce que je ne suis pas, je pourrais vous raconter l'histoire de 2017 en disant c'est complètement dingue, en fait. Un gars à qui tout réussit, quoi. Alors, vous allez me dire ensuite, l'histoire n'est pas exactement la même. Moi, d'abord, vous me dites c'est 6 ans, mais en fait, c'est on va dire 5 ans entre le moment où il décide de se présenter et la fin de La vie est à nous. Mais surtout, en effet, la différence, c'est que moi, je fais un personnage pour qui la question de, comme je le disais tout à l'heure, de l'exercice du pouvoir est tout aussi importante que celle de la conquête. Et donc, en effet, j'ai voulu montrer qu'il ne se trahissait pas, quoi. Mais c'est encore une autre histoire. Ce que je veux dire, c'est que, mais de toute façon, voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas en quoi ce serait impossible. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison. En fait, on ne peut pas démontrer que c'est plus impossible que possible. En fait, ça n'a pas eu lieu. Là, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, on n'a pas de capacité scientifique à prouver que ça ne pourrait pas avoir lieu. Puisqu'en fait, rien n'empêche, en fait, concrètement, que ça ait lieu, quoi. Maintenant, encore une fois, qui... c'est pour ça que quand on m'appelle Émilien... Moi, je ne suis pas Émilien Long. Je veux dire, c'est sûr, c'est pas moi. Donc, pourquoi ça ne pourrait pas être X, Y ou Z? Ça pourrait être très bien.
Bonsoir. Moi, je n'ai pas lu vos livres. Désolé. Mais j'aimerais savoir si dans vos livres vous faites le lien entre travailler beaucoup moins et travailler tous.
Et travailler, pardon ?
Et travailler tous. Est-ce que le tous, fait de travailler que 3 heures par jour, ça permettrait d'éradiquer le chômage, tout simplement ?
Bien sûr, oui. Excusez-moi, je ne l'ai pas dit parce que ça me semblait aller de soi. Mais en effet, le travailler moins fait que tout le monde se retrouve en situation d'avoir un travail, quoi. Ça, c'est d'ailleurs dans tous les textes théoriques toujours... je crois que je l'ai cité de Russell, mais je veux dire, tous les théoriciens ont toujours insisté sur le fait que il le dit, Russell, quand il dit en fait il y a une minorité qui travaille énormément, et puis il y a parce que donc on est très préoccupé par le chômage dans les années 30, et il y a plein de chômeurs en fait qui font rien, donc c'est complètement absurde, quoi. Et en effet, cette idée de partager le travail, elle va de soi, quoi. Enfin, je veux dire, bien sûr.
Oui, non, je voulais juste signaler là, après avoir lu vos livres, aussi ce sentiment que c'était peut-être simplement utopiste. Et puis, on a eu le plaisir d'entendre un économiste qui est un enseignant-chercheur dans une université de Suède,
Timothée Parik,
qui a sorti un livre qui s'appelle « Ralentir ou périr ouais. », et qui, de mon point de vue, développe ce que vous dites du point de vue d'un économiste. Et on voit... qu'il propose aussi, je crois, un nombre d'heures de travail qui est à peu près qui est 16 heures, je crois. Autrement dit, c'est sûrement une utopie réaliste.
Oui, tout à fait. En fait, ça m'a fait plaisir puisqu'il a sorti son livre en septembre 2022. Et en fait, il a cité dans plusieurs entretiens Paresse pour tous en disant justement que pour lui, c'était intéressant parce qu'en tant qu'économiste, il était content de voir un roman dans lequel un économiste justement se saisissait de ces thématiques et les portait dans le champ politique. Donc, je trouve ça très chouette. Ouais. J'imagine que je vais finir par le rencontrer, mais je n'ai jamais rencontré jusqu'à présent. Mais oui, je crois que de toute façon, il faut articuler d'une façon ou d'une autre. Et lui, il le démontre très bien. Justement, il a des outils conceptuels plus puissants que les miens, mais il démontre très bien justement qu'il faut arrêter d'être envoyé toujours au camp des utopistes, des fous, quoi, des poètes, des rêveurs. Il faut arrêter ça, en fait, puisque c'est aussi le jour où on arrêtera de... Et je trouve que c'est intéressant. C'est vraiment une question à se poser sur aussi ce que c'est qu'aujourd'hui d'être réellement, on va dire, une pensée politique novatrice, c'est aussi de dire, mais remettons à plat vraiment, c'est l'extrait que je vous ai cité à la fin sur qu'est-ce que c'est que ruiner la France. En fait, remettons à plat vraiment la question de la mesure. Il y a la question dans La vie est à nous, il y a beaucoup aussi cette réflexion sur qu'est-ce qu'on mesure quand on mesure la croissance. On mesure pas les maladies, on mesure pas tous les défauts générés par les saloperies qu'on met ici ou là. Et donc, du coup, en fait, c'est aussi qu'on a une grille de lecture qui est complètement faussée. Et donc, on dit, ah ben, si, on peut pas parce qu'on a regardé cette grille de lecture. Mais en fait, changeons la grille de lecture. Et là, tout d'un coup, on verra que les choses sont possibles. Quoi. Et c'est ça, je pense, aussi un travail énorme à faire. Et là, moi, je le fais en tant qu'écrivain, mais je pense qu'en effet, il faut que des économistes, des sociologues le fassent, de mettre d'autres grilles de lecture qui permettront aux citoyens, et y compris aux gens qui regardent les pires émissions à la télé, qu'à un moment donné, on leur sorte des arguments en disant, mais en fait, regardez, en fait, il faut arrêter de dire, c'est le problème, c'est ceci, c'est cela, parce qu'en fait, c'est pas ça du tout. Le problème, c'est ce que vous ne voulez pas regarder maintenant, quoi, et regardez le plus maintenant.
Merci
à vous.
Vous venez d'écouter Adrien Klent, écrivain, auteur de Paresse pour tous et La vie est à nous. Retrouvez les autres conférences sur grenoblealpesmétropole.fr.